nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour. À la veille des élections législatives, il nous a semblé important de faire un point sur le scrutin législatif, sur le mode de scrutin, sur la représentativité des députés et sur le rôle du Parlement. Nous sommes en présence de Raymond Boudon. Bonjour Raymond Boudon.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne. Vous êtes l'auteur de « Renouveler la démocratie » aux éditions Odile Jacob, dernier livre en date, livre dans lequel vous défendez le principe de démocratie représentative et pour fonder la mode de la démocratie participative. Une émission sur ce thème est d'ailleurs disponible sur Canal Académie avec vous, Raymond Boudon. Nous allons donc approfondir ensemble le rôle du Parlement aujourd'hui et d'abord parler de la question qui taraude la société et les politiques depuis bientôt 50 ans qu'existe la Ve République, la question du mode de scrutin. Puisque l'on sait qu'en Ve République, nous sommes installés dans un mode de scrutin majoritaire, au contraire du scrutin proportionnel qui prévalait en 4e République et dont on connaît les affres. On voit aujourd'hui les limites de ce scrutin majoritaire, Raymond Boudon.
Il a tout de même des vertus. Si on l'a adopté, ça fait tout de même un certain temps qu'il fonctionne. Enfin, il a la vertu essentiellement d'assurer tout de même une structuration de la vie politique, une stabilité du gouvernement, alors que la 4e République, chacun le sait, était caractérisée tout de même par une très très grande instabilité. C'est pour ça qu'on a mis fin au régime du scrutin proportionnel qui prévalait sous la 4e République. Ceci dit, la question se pose et est posée, si je comprends bien actuellement, de façon tout à fait pertinente, de savoir s'il ne faudrait pas introduire un peu de proportionnel dans le scrutin majoritaire.
Donc ça, c'est possible d'introduire une dose de proportionnel, comme ça se fait en Allemagne.
C'est possible, ça se fait en Allemagne. Et pourquoi une dose de proportionnel? Parce que si on introduit une dose trop forte de proportionnel, bien entendu, les effets positifs ou les vertus du scrutin majoritaire sont perdus. Par conséquent, une dose de proportionnel est légitime, mais à condition qu'elle reste modérée. Enfin,
c'est-à-dire qu'une partie des députés serait élue selon un scrutin proportionnel et la majorité serait élue
selon le régime actuel du majoritaire à deux tours. À deux tours, il faut le préciser, parce qu'il y a d'autres pays qui connaissent le majoritaire à un tour, qui est très brutal, comme la Grande-Bretagne. Alors, pour l'instant, on a l'impression qu'on va vers un système, de plus en plus vers un système biparti. Dans ce cas-là, la représentation proportionnelle est moins importante. Même une petite dose de représentation proportionnelle est moins importante. Mais il faut prévoir que les évolutions vers le système biparti plus ou moins accusé, cela dépend beaucoup des contingences, de la conjoncture. Donc, on va pour l'instant vers un système qui semble aller vers une affirmation du bipartisme, mais il n'est pas évident que les conjonctures autres dans une dizaine d'années ne réamèneront pas des partis qui n'appartiendront pas aux deux grandes formations. Par conséquent, l'idée d'avoir de façon permanente une petite dose de proportionnel semble être une manière de couvrir des situations assez diverses. Vous voyez, des situations plus nettement bipartisanes ou des situations moins nettement bipartisanes, comme celles qu'on a connues il n'y a pas encore tellement longtemps, où il y avait un certain nombre de partis qui n'étaient pas du tout représentés, alors qu'un nombre impressionnant de citoyens, de nos concitoyens, votaient pour eux.
Est-ce que c'est pas dans l'autre sens que cela se fait? C'est pas parce que le scrutin est majoritaire que le bipartisme s'impose au Parlement?
Non, parce que ça dépend vraiment de toutes sortes de facteurs. On a eu un certain nombre d'années où les Français avaient l'impression que les deux partis principaux faisaient des politiques qui ne se distinguaient pas franchement l'un de l'autre. Enfin, c'est un discours qu'on a très souvent entendu sous la plume des journalistes. Dans ce cas-là, lorsque les gens ont l'impression que les partis principaux ne se disent pas, vous avez une situation qui favorise l'apparition ou le développement de partis autres. C'est une situation qu'on a connue dans les 10 ou 20 dernières années, où les partis autres que les deux partis principaux, recueillaient un nombre significatif de voix. À partir du moment où vous avez l'impression, ou le citoyen a l'impression que les deux partis principaux sont franchement contrastés l'un par rapport à l'autre, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne collaborent pas, etc., ni qu'il y a un clivage, un mur de béton entre les deux, mais à partir du moment où on a l'impression que l'offre politique, pour parler comme les économistes, est franchement distincte à partir des deux grands partis, dans ce cas-là, il se produit presque mécaniquement un effet d'atténuation de l'importance des autres partis, dans la mesure où l'offre politique correspond davantage à la variété des demandes.
Mmh. Du coup, dans ce cas-là, l'introduction d'une dose de proportionnel vous semble moins dangereuse ?
Elle n'est pas dangereuse. Je ne crois pas que dans l'absolu, elle soit dangereuse. Elle soit dangereuse à partir du moment où elle est modérée. Elle n'est pas dangereuse. Et elle présente l'avantage, comme on disait, de représenter. Mais je crois qu'actuellement, nous sommes dans une conjoncture où l'introduction d'une petite dose de proportionnel, alors vraiment ne présente aucun danger, et d'autre part ne risque pas de soulever de grandes passions, puisque les partis qui éventuellement revendiqueraient une dose plus forte de proportionnel sont pour l'instant affaiblis. En conséquence, la conjoncture politique me semble favorable pour introduire ce type de mesure qui, encore une fois, est fondamentalement très bonne dans la mesure où ça couvre des conjonctures extrêmement différentes. Or, deuxième proposition, il faut s'attendre normalement à ce que les conjonctures varient. Dans tous les pays, même dans les pays où la culture est fondamentalement bipartisane, vous avez tout de même des conjonctures où un certain nombre de citoyens ne sont pas satisfaits par l'offre des partis dominants et où par conséquent on voit se développer, même aux États-Unis on voit cela, on voit se développer des partis n'appartenant pas aux deux grands, si l'on veut.
Et dans la Ve République, il vous semble avoir une place pour un troisième parti ?
Je n'ai pas vraiment l'impression, parce que j'ai l'impression que la dynamique fondamentale, si vous voulez, du jeu de l'offre et de la demande politique, c'est qu'il y ait un contraste. C'est ce qui nous a manqué, je crois, depuis une vingtaine d'années au moins. Il faut qu'il y ait un contraste entre l'offre produite par les partis de gauche, le parti de gauche, si l'on veut, et l'offre du parti de droite. Il faut qu'il y ait un contraste. Et c'est très sain. Et le dialogue est vigoureux et net à partir du moment où il y a un authentique contraste. Je crois que la popularité de l'actuel président de la République vient de là. C'est qu'il a donné l'impression qu'il allait, pour la première fois, introduire un véritable contraste, sans faire de politique et simplement en s'en tenant au niveau de la théorie politique. À partir donc, je pense qu'il y a une espèce de logique fondamentale qui veut que l'offre politique soit satisfaisante à partir du moment où vous avez deux partis qui ont chacun une offre sérieuse. Alors, j'ajouterais aujourd'hui, et ça tout le monde le dit, qu'une des grandes difficultés de la vie démocratique française d'aujourd'hui, c'est qu'il ne semble pas qu'il y ait d'offres politiques sérieuses pour l'instant du côté de la gauche. Enfin, heureusement, la dernière élection a fait qu'il y a, probablement par la volonté de personne, mais par une sorte de jeu que personne n'avait anticipé, il y a eu une demande de modernisation très forte qui est apparue du côté de la gauche. Alors ceci dit, il faut que cette modernisation se fasse, et pour l'instant elle n'est pas faite.
Alors, la question de la proportionnelle pose plus globalement la question de la représentativité des parlementaires. Tout de même, est-ce qu'on peut attendre d'un Parlement et d'une Assemblée nationale en particulier qu'elle représente davantage la population ? Est-ce que vous êtes favorable à la discrimination positive, aux quotas ? On voit que chaque parti a du mal à présenter un nombre équivalent d'hommes et de femmes aux élections législatives, là, en 2007.
Bah oui, l'inertie politique fait que les femmes sont malheureusement très peu représentées en France, et ça ne peut pas durer éternellement, bien entendu, ça n'est pas normal. Enfin, que la moitié de la population, pour des raisons, on ne choisit pas le genre auquel on appartient, donc il n'est vraiment pas normal que la représentation nationale exclue est un mot trop fort, mais ne tienne pas davantage compte du 50% qui caractérise la biologie. Enfin,
alors, pourtant, ces quotas existent aujourd'hui.
Chez Quetta existe, mais il y a une inertie politique qui est parfaitement compréhensible. Les partis veulent que les candidats qu'ils présentent soient élus, bien entendu, puisqu'ils sont dans une situation de concurrence. Et très souvent, on a l'impression que l'incumbent, comme disent les Américains, que le député sortant a davantage de chances que le nouveau. Enfin, donc vous avez cette inertie-là. Puis du côté du citoyen, de l'électeur, ben, l'électeur aussi, pour des raisons non pas du tout de discrimination sexuelle, bien entendu, mais tout simplement parce qu'il connaît le député sortant et que, deuxième proposition, le député sortant, dans bien des cas, va être un homme, et bien il va voter pour lui. Ces mécanismes spontanés font qu'il est très difficile de corriger cette sous-représentation massive des femmes. Alors la discrimination positive ne me fait pas peur, je crois qu'elle a été pratiquée dans un certain nombre de pays scandinaves, de la Norvège en particulier, qui est, dit-on, une des démocraties qui fonctionne le mieux, en tout cas un des pays qui réussit le mieux, ben pourquoi pas. La seule chose, en général, ces questions de discrimination positive sont posées de manière qui n'est pas la bonne. On pose la question de discrimination positive en termes de oui et non. La bonne question, c'est oui et non, mais deuxièmement, il faut ajouter que la discrimination positive ne peut durer qu'à un certain moment, au bout d'un certain moment, une fois que les objectifs sont atteints, que les vices de la représentation sont corrigés de manière satisfaisante, à ce moment-là, on arrête, bien entendu, la discrimination positive.
Voilà donc pour la question de représentativité ou ce que l'on peut en dire. Une fois élu, on ne sait plus très bien aujourd'hui ce que fait un député. Je pense que ça participe aussi de cette crise de la démocratie que l'on a aujourd'hui. On ne comprend plus très bien quel est le rôle du Parlement, à part d'avoir un énorme parti majoritaire qui entérine les décisions du gouvernement.
Oui, alors cette situation n'est pas bonne. Alors, je crois qu'il y a une première famille de correctifs auxquels on peut penser. Enfin, on a un pouvoir présidentiel qui est fort, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais naturellement la contrepartie, c'est qu'il faut que le Parlement ait aussi un pouvoir fort. Alors, il y a un premier registre de choses auxquelles on peut penser pour affermir le pouvoir du Parlement, c'est tout simplement que les députés utilisent effectivement les pouvoirs qui leur sont consentis. Hein. Là, c'est une question, vous savez, Tocqueville disait, dans le changement social, ce qui compte, c'est pas tellement la réforme des institutions, c'est plutôt la réforme des comportements et des mœurs. Ben, là, je crois qu'on peut appliquer ce théorème de Tocqueville, si l'on veut, de manière très franche. Il faut que les parlementaires utilisent tous les instruments qui sont à leur portée.
C'est-à-dire les commissions d'enquête, les commissions...
Alors là, c'est la deuxième famille de choses auxquelles on peut penser. Il faudrait sans doute que les parlementaires soient davantage associés aux grandes nominations de la République. Enfin, je pense il y a de grandes institutions du type du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, etc. Je trouve que ces nominations dans l'état actuel ne mettent pas suffisamment en jeu le Parlement. On pourrait très très bien introduire l'idée que les nominations associe le Parlement, que le Parlement exerce une capacité d'audit des personnalités qui sont pressenties, choisies, etc. Ça donnerait des garanties aux citoyens, ça éviterait des phénomènes de, oh, disons, népotisme, mettons des guillemets autour du mot népotisme, mais qui sont assez déplaisants et qui ne sont pas dignes d'une démocratie moderne. Le fait que les nominations soient faites en fin de parcours d'une personnalité, qu'il s'agisse du président d'une assemblée ou qu'il s'agisse du président de la République, ne me paraît pas normal. Donc, il y aurait un moyen, là, de faire intervenir le Parlement très directement, en demandant, par exemple, que dans des postes fondamentaux, eh bien, le Parlement s'exprime aux deux tiers, aux trois cinquième, que sais-je, je ne veux pas rentrer du tout dans le détail des institutions, mais que le Parlement joue un rôle fondamental dans ces nominations aux grandes fonctions, surtout les fonctions de régulation, les fonctions d'appel, les fonctions de réflexion, qui sont celles du CSA, du Conseil constitutionnel ou des instances analogues.
Et cette pratique se fait déjà dans d'autres pays?
Aux États-Unis, par exemple, oui, naturellement. Aux États-Unis, vous avez un régime présidentiel où le président a énormément de pouvoir, il a même un droit de veto, enfin, sur les décisions de l'Assemblée. Mais la contrepartie, c'est que aucune nomination importante ne se fait sans que le Sénat, la Chambre des représentants, surtout le Sénat, ne soit consulté. Il joue un rôle décisif à cet égard. Alors, je pense que comme nous allons tout de même vers un système même affichée comme de plus en plus présidentielle, puisqu'on a connu, dans l'évolution de la Ve République, un président de la République très fort, mais qui considérait qu'il n'avait un droit de regard direct et immédiat que sur la politique étrangère. Aujourd'hui, le président de la République a un registre d'intervention beaucoup plus large. Donc on va de plus en plus vers un régime présidentiel. La contrepartie, c'est naturellement d'utiliser tous les moyens possibles pour renforcer le pouvoir des parlements. Mais il faut aussi que les parlementaires considèrent eux-mêmes que leur fonction n'est pas seulement d'avaliser les décisions gouvernementales, mais aussi eux-mêmes de faire des propositions de loi du côté du gouvernement. Il faudrait que les propositions de loi faites par les parlementaires soient davantage prises au sérieux, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a un double clavier. Le clavier des institutions, ça n'appelle pas du tout des réformes drastiques, c'est simplement de petits changements dans la tonalité. Et puis, il y a aussi, alors, le registre des changements de comportement, inciter les parlementaires à jouer leur rôle de façon maximaliste, en jouant surtout les leviers qu'ils ont à leur disposition.
Nous marquons une toute petite pause.
Dans sa médiathèque, Canal Academy vous donne rendez-vous avec Alain Decaux. Comment lui est venu le goût de l'histoire? Quel est son point de vue sur l'objectivité historique? Quels sont ses combats? Quelles sont ses fiertés, ses projets? Alain Decaux se livre en toute vérité. Et quand il raconte, on retrouve le Decaux que nous avons tous aimé écouter à la télévision, à la radio. Alain Decaux est sur Canal Academy.
Raymond Boudon, une question qui se pose aujourd'hui sur le fonctionnement de notre démocratie, aujourd'hui en 5e République, c'est la question du cumul des mandats. Une question qui revient régulièrement, à laquelle beaucoup de politiques s'attellent, mais on n'a pas l'impression que le phénomène bouge beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du cumul des mandats? Une bonne chose?
Naturellement, il y a des arguments pour. L'argument qu'on entend souvent évoquer, c'est qu'il est bon pour un parlementaire d'avoir un contact direct avec ce qui se passe localement, avec les électeurs qui l'ont élu. Mais je crois qu'il y a un petit peu une erreur de raisonnement dans cette manière d'argumenter. Parce que, de même que le président de la République, une fois qu'il est élu, il est l'élu non pas d'un parti, même s'il provient d'un parti, mais il est l'élu d'ensemble de la nation, bah de même, un parlementaire porte le beau titre depuis le XVIIIe siècle de représentant de la nation.
Il ne représente plus seulement sa circonscription.
Malgré
les apparences durant une campagne législative.
Voilà. Alors, il est clair que continuer d'être très présent localement, ça peut avoir des avantages, que vous avez davantage de chances d'être élu si vous pouvez dire ou glisser ou chuchoter dans l'oreille de vos électeurs que s'ils veulent bien vous élire, ils vont être écoutés à Paris. Mais enfin, je trouve que ça, ce sont des, si vous voulez, des conséquences de la centralisation française qui a toujours été anormalement élevée par rapport à ce qu'on observe dans des pays étrangers. Alors, je pense qu'il faut vraiment ici penser en termes de bon sens. Alors, la première proposition de bon sens que j'évoquerai, c'est celle que je viens de dire, que je répète, le représentant de la nation est le représentant de la nation. Bon, il est donc là pour jouer à plein temps et à 100% son rôle de parlementaire et à, comme on le disait tout à l'heure, à utiliser tous les leviers qui sont à sa disposition pour jouer pleinement ce rôle de représentant de la nation. Ça, c'est la première chose à laquelle on peut penser. Deuxièmement, le bon sens nous dit que puisque diriger ou gérer une crèmerie, c'est un travail à plein temps, on a tout de même du mal à concevoir qu'être maire de Marseille ou qu'être maire de Bordeaux, ça ne soit pas une tâche à plein temps. Alors, le cumul des mandats, d'autre part, a un inconvénient, c'est qu'il met sur la tête d'une seule personne, ou plus exactement, pour employer une autre métaphore, il permet à une seule personne de s'asseoir dans 5 ou 6 fauteuils. Alors que si le cumul des mandats était supprimé, ben, il y aurait une personne dans chacun des 5 ou 6 fauteuils, ce qui, je crois, serait très bon pour la démocratie. Donc, si on essaye de raisonner en termes généralistes, en termes de bon sens, en termes presque infrapolitiques, si vous voulez, j'ai l'impression que le cumul des mandats n'est pas une bonne chose, et c'est parce que c'est pas une bonne chose que c'est une autre des exceptions françaises. Alors il y a dans ce pays une sinistre habitude qui consiste à dire que les exceptions françaises témoignent simplement du caractère particulier de la France et de la sottise des étrangers. Ben, je trouve que c'est aussi un argument extrêmement faible. Je suis un petit peu brutal ici, mais je crois qu'à chaque fois qu'on parle d'exceptions françaises, surtout dans un moment où on essaie tout de même de construire l'Europe, dans un moment où on a l'impression que la démocratie est tout de même plus affirmée dans un certain nombre de pays scandinaves, ou même en Allemagne, grâce ou à cause du passé tragique que l'Allemagne a connu il n'y a pas tellement longtemps, la démocratie est peut-être plus affirmée sur certains points. Vous voyez, je pense que les exceptions françaises, on ne peut les accepter qu'à condition d'être sûr qu'elles vont dans le bon sens.
Pour parler plus globalement de la répartition des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, est-ce qu'il vous paraît équilibré à ce jour ?
Alors, les rapports entre le judiciaire et le politique me semblent vraiment, depuis plusieurs décennies, aller dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on sent très bien que les magistrats sont de plus en plus conscients de leur indépendance, qu'ils l'exercent,
qu'ils le revendiquent.
Et là, l'évolution a été assez rapide. Si vous prenez la situation française d'il y a une trentaine d'années, on n'a pas besoin de remonter très très loin, le judiciaire avait beaucoup de difficultés à s'attaquer à des gens qui, socialement, avaient une surface importante. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. C'est certainement le signe d'un approfondissement de la démocratie, et c'est une bonne chose. Le Parlement, pour l'instant, n'est pas suffisamment, on vient de le dire, n'est pas suffisamment affirmé. Cela dit, alors il faut bien voir qu'en dehors, c'est un de mes thèmes favoris que vous allez reconnaître, en dehors des trois pouvoirs classiques de la démocratie selon Montesquieu, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, il faut bien voir que dans les sociétés modernes, on ne le dit pas assez, il y a d'autres pouvoirs qui ne sont pas dépourvus d'intensité. Je pense au vôtre, pouvoir médiatique. Il y a le pouvoir, ce que Tocqueville appelait déjà le pouvoir social, qui se traduit essentiellement dans la France d'aujourd'hui par le pouvoir des syndicats. Donc, il y a le pouvoir économique aussi. Alors, par exemple, une des grandes faiblesses, à mon sens, de la démocratie américaine, qui, par certains côtés, est une démocratie moderne, mais c'est que vous avez un empiètement considérable du pouvoir économique sur le pouvoir politique, en ce sens que ça n'est évidemment pas à la portée de toutes les bourses que de se porter candidat à une élection présidentielle américaine. On voit régulièrement des milliardaires se présenter, pas forcément... Bon, là, je crois que c'est une faiblesse très grande de la démocratie américaine qui est beaucoup mieux corrigée dans les pays européens, dans la mesure où vous avez des lois qui ont été prises dans les dernières années, là aussi c'est assez récent, qui tentent à moraliser, on dit moraliser, le mot n'est pas très bon, mais plutôt à assurer la séparation entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. C'est le cas de la France, c'est le cas de l'Allemagne, etc. Du point de vue-là, les démocraties européennes dans leur ensemble sont supérieures, me semble-t-il, à la démocratie américaine. Mais vous voyez, il faut, quand on va vers une appréciation de l'intensité d'une démocratie, il faut apprécier le degré auquel les institutions et les comportements, toujours les deux, les institutions et les comportements, sont attentifs à la séparation de tous les pouvoirs, les trois pouvoirs classiques de Montesquieu, mais aussi le pouvoir médiatique, le pouvoir économique et le pouvoir social. Alors là, il y a un point faible de la démocratie française, c'est le pouvoir social. Dans la mesure où on a les syndicats qui sont très peu représentative, et je suis heureux de voir que la question de la représentativité des syndicats est posée, car ils représentent non seulement une très faible partie de leurs mandants, 7 à 8%, mais d'autre part, il y a une très forte asymétrie également entre la représentation de la fonction publique et la représentation des travailleurs du privé. Donc ça ne va pas, et je crois que les syndicats eux-mêmes en sont parfaitement conscients, il y a vraiment un problème de la représentativité des syndicats. Autant il est très important d'avoir des syndicats, ils jouent leur rôle, autant il est très important qu'ils aient une représentativité que le citoyen perçoive et qu'il accepte, et d'autre part, qu'il y ait une séparation des pouvoirs. C'est-à-dire qu'il me semble pas normal, je prends une comparaison si vous voulez ici, un syndicat d'enseignants français considère comme normal de participer à la construction de la politique de l'éducation. Si vous prenez la situation anglaise, les syndicats d'enseignants anglais sont extrêmement puissants, ils sont beaucoup plus représentatifs que les syndicats français, mais d'un autre côté, ils considèrent qu'il y a une ligne jaune à ne pas franchir, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui relèvent de la défense du personnel, et par conséquent du registre syndical, et puis il y a des questions qui relèvent du politique, vous n'avez pas du tout cette distinction en France où le syndicat trouve normal de s'exprimer sur la réforme des universités, sur etc., ce qui est du registre du représentant de la nation et pas du tout de gens qui ne sont pas représentatifs et que quand ils sont représentatifs, ils sont supposés aborder des sujets qui ne sont pas ceux du politique.
Merci beaucoup Raymond Boudon, merci d'avoir éclairci ces questions de représentativité du Parlement. Bonne journée.
Merci.
Thank you.